Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes,
allez-y. J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, tu cherches
pas,
sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. C'est trop intéressant.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez,
sortez
les jambes. Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez le veto.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortis tous avec nous.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission socio-culturelle Sortez. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Lison et Sandro. Comment allez-vous ?
Ça va, merci.
Ça va, ça va.
Et donc, vous êtes en stage chez nous. Alors, comment ça se passe ?
Stage de seconde, bah, c'est le début pour l'instant. Ça fait que 2 jours qu'on est là, mais ça se passe bien.
Cool.
Bah oui, tout pareil, j'ai rien à rajouter.
Et donc, let's go, on se lance dans cette émission. Petit rappel, il y a 2 semaines, nous recevions le très court International Festival. Et si on restait dans un monde international, avec un autre festival, mais cette fois-ci, aux passions totalement différentes, il s'agit de la danse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Breton pour présenter le festival Bois Danse, un festival international chorégraphique qui revient pour sa 6e édition cette année et qui se tiendra du 2 au 11 juillet 2025 à Blois. Bonjour à toi.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu fais partie de la compagnie de danse professionnelle Azote Danse Théâtre. Tu es même le directeur artistique, si je ne me trompe pas. Vous voguez entre les États-Unis et la France. Vous êtes dans la prog du festival. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la pièce que vous allez présenter et quelles en sont les inspirations ?
Alors, avec la compagnie Azote Danse Theater, on va proposer 2 pièces. Donc, la première, c'est Yuga. Yuga, c'est une pièce que j'ai chorégraphiée en tant que chorégraphe associé sur les élèves du conservatoire de Tours, il y a 2 ans. Et du coup, cette année, cette pièce va faire son entrée dans le répertoire de la compagnie. Et l'autre pièce qu'on va présenter, c'est Rewrite. Donc ça, c'est la création 2025. C'est une nouvelle pièce, en fait, qui... Vous savez, les musiciens, ils remixent la musique, les chanteurs, ils font des covers. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font les danseurs ? Donc du coup, je me suis inspiré de pièces chorégraphiques qui m'ont touché dans ma jeunesse. Et j'en propose une réécriture avec une orientation culture d'aujourd'hui, c'est-à-dire où en est la culture aujourd'hui, notamment la liberté de la culture.
Et donc justement, c'est une pièce qui a été pensée seulement par toi ou ça a été un mouvement de toute l'équipe ?
Non, c'est une pièce qui est pensée uniquement par moi.
Et donc il y a aussi Collectivo Banquet qui vient d'Espagne. Qui sont-ils et quel type de mouvement explore-t-il sur scène ?
Collectivo Banquet, c'est une compagnie espagnole, c'est un collectif exactement de jeunes chorégraphes qui cherchent en fait, par la danse contemporaine, à exprimer leurs préoccupations d'aujourd'hui en tant que jeunes européens. Parce que je pense que des préoccupations, aujourd'hui on en a beaucoup.
Genre quel type qui seront explorés
L'environnement, beaucoup.
L'environnement.
Ils ont des pièces qui se dansent beaucoup en extérieur. Et qui sont adaptés aussi pour le plateau. Donc là, pour le coup, ça sera dansé sur plateau. Et puis aussi tout ce qui est social, notamment dans toutes les questions de migration.
Et donc, du coup, l'environnement et le social, ça fait partie des objectifs, du moins des valeurs du festival ?
Tout à fait. Pour tout ce qui est environnement, bien sûr, on connaît maintenant tout ce qui est éco-cup, tout ce qui est impression raisonnée, les billetteries en ligne principalement. Nous, on loge aussi tous les artistes en centre-ville. C'est que des transports en covoiturage ou pour ceux qui viennent plus loin, en transport en commun. Donc ça, c'est une valeur qui est assez importante. Et tous nos matériels de communication, que ce soit les programmes, les brochures, les affiches qui ne sont pas utilisés sur le temps du festival, qui nous restent sur les bras, et bien après, on les remet en fait à des artistes visuels. Des peintres, des artistes multimédia qui en fait les incorporent dans des œuvres qu'ils créent eux-mêmes. Donc comme ça, tout est recyclé. Et du côté social, on a un gros volet effectivement à destination bien sûr de la jeunesse, hein, avec IEPS, le Pass Culture, les écoles, on fait venir des écoles aux répétitions aussi du festival. Et après, on propose aussi des tarifications préférentielles aux associations social, aux maisons de quartier et puis à tout ce qui est EHPAD, centre de repos et hôpitaux.
Et d'ailleurs, Lison et Sandro, vous avez IEPS du coup ?
Oui.
Ça vous arrive de voir souvent des festivals tels que le Blois Danse dans vos...
Souvent, sur IEPS, le plus fréquent normalement, c'est des festivals comme ça qu'on voit.
Ça vous arrive d'y participer ?
Franchement, oui.
Oui, mais c'est vrai que cette année, moi, pas trop, mais...
pas une chose à laquelle vous avez pensé, du moins la danse contemporaine, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs styles de danse, du coup. Mais est-ce que c'est une chose à laquelle ça vous intéresse généralement?
Oui, la danse, oui, en soi. Mais après, pour le coup, on a encore 16 ans, donc j'avoue que les festivals, on n'a pas trop encore commencé. Ouais. Yes.
Si on restait du coup avec Jonathan, les voisins proches du coup avec Lucia Garatina qui elle est italo-allemande.
Elle est italienne, mais elle est basée maintenant en Allemagne.
Elle est basée maintenant en Allemagne. Il y a Campai, c'est une compagnie.
Compagnie espagnole aussi, oui.
Et Dédale qui est chorégraphe français.
Tout à fait.
Quelles sont leurs différences dans leur approche artistique et leur style?
Alors c'est très varié. Donc Campai, c'est aussi un collectif d'artistes espagnols. Eux, pour le coup, c'est une compagnie plutôt hip-hop, mais ils revendiquent le fait que le hip-hop, ça se danse pas seulement dans la rue. Donc eux, c'est vraiment des créations qui sont adaptées pour la scène. Donc ça, c'est leur grande mission à eux, de faire venir les gens voir de la danse hip-hop sur scène. On a déjà programmé, nous, dans le festival du hip-hop, et c'est vrai qu'on a souvent du public qui dit « Oh non, du hip-hop, moi je vais pas au théâtre pour voir le hip-hop. » Ouais. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup, eux, ils défendent ça. Donc on a choisi de proposer leur travail. Lucia Garatina, c'est une chorégraphe italienne. Donc du coup, elle c'est une jeune chorégraphe qui a gagné un concours à Biarritz, chorégraphique, l'année dernière. Et donc, on propose la pièce qui a remporté le concours. C'est une pièce pour 4 danseurs, et c'est que des danseurs qui sont dans des grandes compagnies, dans des grands ballets allemands. Donc du coup, c'est un mix entre la nouveauté et l'ancienneté, entre guillemets, parce que c'est des danseurs qui ont vraiment de la bouteille, mais elle, c'est une jeune chorégraphe en plein essor. Donc du coup, ça fait un résultat qui est plutôt sympathique. Donc ça, c'est à découvrir aussi. Et la dernière compagnie, on en a encore deux. On a Ayako Takahashi. Ayako Takahashi, c'est la compagnie Ayales in Motion. Donc on aura deviné par la prononciation, c'est japonais.
C'est japonais.
Donc, c'est une compagnie qui vient du Japon. C'est une jeune artiste, elle, qui a beaucoup, beaucoup tourné à l'international. Moi, je l'ai rencontrée quand j'habitais à New York à l'époque. Elle a même dansé dans ma compagnie, à The Dance Theater. Et du coup, c'est un petit monde, la danse. Hein. Ouais. Et du coup, elle est multiprimée. C'est-à-dire, elle va dans un pays, hop, elle gagne un prix. Donc je ne peux pas faire de meilleure pub que ça. Il faut aller voir son travail. Et elle est aussi art-thérapeute spécialisée dans tout ce qui est le troisième âge. Donc du coup, elle intervient aussi en tant qu'artiste avec une dimension très sociale, en dehors de la scène. Et la dernière compagnie, c'est Something Theater. Donc ça, c'est une compagnie chinoise. C'est un artiste en particulier. Et là, lui, ce qu'il propose, c'est très électrique, très poétique. On le sait, hein, les Chinois, ils sont vraiment dans... On pousse le corps à l'extrême. Et là, c'est un résultat qui est vraiment assez spectaculaire.
Donc justement, j'allais en parler. Et on parcourt quand même quelques milliers de kilomètres. Comment est-ce que, du coup, tu as dit que c'est un petit milieu, mais comment est-ce que tu as fait pour les contacter? Est-ce que ça a été une réponse directe pour qu'ils puissent participer au festival? Ou ça a pris un petit cheminement assez long?
Il y a un petit peu des deux. Donc les artistes que moi je connais, en général, je les contacte directement. Et sinon, nous, on a un appel à candidature, en fait. Sur le mois de juillet, août, septembre. Et là, on a reçu cette année 800 vidéos. Donc 800 vidéos, ça fait beaucoup d'heures à regarder. Et donc du coup, on trie dans tout ça. Nous, nos critères, c'est qu'il faut que ce soit des spectacles tout public, qui parlent à des gens de 4 à 90 et plus. Voilà, on veut de la danse qui danse. Parce qu'on a beaucoup de gens qui disent moi je veux pas avoir des spectacles de danse, je comprends rien, j'ai pas les clés, ça me parle pas, c'est du théâtre. Donc nous, c'est vraiment de la danse qui danse, de la danse qui raconte des histoires et de la danse qui peut toucher tout le monde. Je vais raconter une petite histoire. C'est une mamie qui était venue avec son petit-fils de 4 ans il y a quelques années, et son petit-fils lui avait dit après le spectacle, elle nous a envoyé un mail: mamie, comment ça se fait que les messieurs et les madames ils parlent pas? Donc elle lui dit ils parlent avec leur corps. Et donc il a répondu moi aussi j'ai envie de faire ça plus tard. Donc du coup, pari gagné.
C'est tellement beau.
Ouais. Très mignon.
Vas-y, tu peux poser une question si tu veux.
J'avoue que là, comme ça, j'ai pas.
Du coup, dans cette programmation, il ne s'agit pas que de danse, il y a aussi des ateliers qui y sont proposés. Quels seront les sujets qui y sont abordés et par qui?
Donc du coup, en fait, nous, on a pour volonté de casser le quatrième mur entre le public et les artistes, surtout pour de la danse, parce que quand c'est du théâtre, de la musique, c'est vrai qu'on ouvre la bouche, on a l'instrument vocal qui s'engage, mais là, c'est vraiment que le corps qui parle, donc ça crée encore une distance. Donc nous, on veut rompre cette distance. Donc chaque artiste qui est invité peut proposer des ateliers, ces ateliers qui sont très variés. On a de la danse traditionnelle espagnole, on a de l'improvisation, de la danse classique, de la danse contemporaine, on a même du yoga... qu'est-ce qu'on a du répertoire de compagnie. Enfin voilà, c'est vraiment très varié suivant ce que chaque artiste peut proposer. Et du coup, là, c'est ouvert à tous. Qu'on soit débutant ou qu'on soit professionnel même, c'est vraiment ouvert à tous. L'idée, c'est la rencontre et le partage.
C'est vrai qu'on a, c'est vrai que généralement, on est assez loin des artistes qui sont au-devant de la scène. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut y participer ?
Eh bien, il faut simplement s'inscrire sur le site internet. On a une billetterie en ligne. Pour ce qui est des ateliers, plus on prend d'ateliers et plus c'est dégressif. Et pour ceux qui ont le pass culture, eh bien, il y a même des offres très attractives, si on peut dire, sur le pass culture. C'est-à-dire un atelier, normalement, ça vaut 15 euros si on le prend à l'unité. Et je crois que si on en prend 15 sur le pass culture, il doit être à 9 ou 10.
Bon, ça.
Voilà.
Et il y a aussi des stages de danse. Bon, de ce que j'ai vu, je pense que tout est complet. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ?
Alors en fait, le stage de danse, c'est avec deux danseurs de la compagnie, notre compagnie à nous, à The Dance Theater. Et en fait, les participants, il y a un stage ado, un stage adulte. Ils ont 4 jours pour participer à une création chorégraphique. Et au 4e jour, eh bien, ils sont présentés sur scène. Donc voyez-vous, vous êtes en stage à la radio. Eh bien là, c'est comme un stage au sein d'une compagnie finalement. On a 4 jours pour vivre le quotidien d'un danseur. Donc c'est un gros challenge pour les gens parce qu'encore une fois, c'est ouvert à tous, débutants comme avancés. On a même eu des personnes en situation de handicap. Donc pour nous qui chorégraphions sur ces publics-là, c'est super intéressant parce que c'est très challengeant pour nous aussi. On peut avoir des gens qui ont fait de la danse pendant 40 ans et puis des gens qui n'en ont jamais fait et à qui manque une jambe. Donc c'est vraiment super stimulant. Ouais. On dit comme ça, j'avoue, ça fait sourire. Mais c'est vraiment stimulant et surtout, il y a une... les différentes tranches d'âge, elles se mixent en fait. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que, eh bien, on se rend compte des fois que y a des personnes âgées qui ont beaucoup plus d'énergie que des jeunes. Et ça crée vraiment, pendant 4 jours, un petit cocon où tout le monde travaille ensemble et il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est vraiment, quand on vous savez, c'est comme quand on vit quelque chose de fort et après c'est fini, eh ben, on a un petit peu... la déprime, et ben après le 4e jour, c'est un petit peu ça qui se passe. Ouais.
Comme un voyage.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Et c'est vous qui proposez une chorégraphie et eux ils l'interprètent, ou c'est eux qui donnent...
Eh bien les deux, parce que comme on ne sait pas nous forcément qui est-ce qu'on va avoir au stage, qu'on ne connaît pas forcément tout le monde, eh bien on vient quand même avec une base, parce que vu qu'on n'a que 4 jours, on ne peut pas arriver comme ça en vacances. Mais on a une base, et en fait après, il y a tout un travail de création aussi avec les participants. Okay. Parce que le but c'est aussi qu'ils expriment leur propre créativité, leur propre communication via leur corps, donc du coup... Il y a de ça aussi, oui.
Okay. C'est fait par groupe ?
Oui, il y a un groupe ado, un groupe adulte. Et après, tous les petits moments où il y a de la création, souvent on les met par 2 ou 3.
Okay.
Et en fait, ils font des duos, des trios. Et puis, on incorpore ça après dans la pièce.
Et donc, grosse nouveauté pour le festival Blois Danse. Il y a le ciné-débat autour du documentaire « Sans rêve à lui ». J'ai oublié, c'est quoi la date ? Ça s'intéresse à la place du masculin dans la danse classique. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Et quel message est-ce qu'on souhaite faire passer ?
Donc ce ciné-débat au cinéma Les Lobbies, c'est une première cette année. Donc c'est le 7 juillet à 20h30, lundi. Merci. 7 juillet. Alors pourquoi ce film ? Le cinéma Les Lobbies, il souhaitait qu'on incorpore un ciné-débat parce qu'ils aiment beaucoup ça. Nous, on trouvait ça super parce qu'on est encore dans l'échange, dans la rencontre, dans la discussion. Et donc là, on n'a pas fait un appel à la candidature, on a choisi ce documentaire particulièrement. C'est un documentaire qui a été réalisé par Michael Dinic et Olivia Nganga. Donc ce sont deux réalisateurs qui sont basés à Angers. Olivia, elle est aussi, je ne sais pas si on peut dire journaliste, mais en tout cas, elle intervient beaucoup à la radio, notamment à une radio de Tours, on peut peut-être pas la citer,
ouais.
Une radio de Tours. auquel elle intervient beaucoup. Et donc du coup, ce sont des gens qui s'y connaissent beaucoup en danse. Ils sont réalisateurs, mais ils font notamment tout ce qui est les captations, vous savez, les vidéos, des pièces chorégraphiques du centre chorégraphique de Tours, par exemple. Et ils font aussi celle de notre compagnie. Donc ils sont vraiment orientés danse. Et ce documentaire interroge effectivement le parcours des jeunes garçons qui veulent devenir danseurs classiques. Parce que quand on est à l'école, notamment surtout primaire, collège, quand on dit voilà, on fait de la danse classique, bah, y a toujours encore beaucoup de préjugés. Et on ne se rend pas compte, mais ça c'est une petite anecdote aussi, mais il faut savoir que musculairement, le corps du danseur classique est beaucoup plus athlétique que celui d'un footballeur par exemple. Parce que le danseur classique, lui, il utilise la totalité de ses muscles. Oui. Les bras, les épaules, tout se met en place. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on essaye de casser. Et ce documentaire, il suit en fait donc plusieurs enfants notamment des enfants du Conservatoire de Tours aussi, qui sont en formation et qui espèrent devenir danseurs professionnels, des enfants à l'Opéra de Paris, et on arrive jusqu'à des étoiles. Donc il y a notamment Patrick Dupont, quand il était encore vivant, qui a interviewé dans ce documentaire, et François Lu, qu'on connaît de plus en plus pour toutes les émissions télé qu'il fait. Donc on a vraiment, on va vraiment de l'enfant qui veut devenir danseur à cette étoile qui raconte son parcours, en fait. Et bah ça, on est encore dans le volet social. Hein. Je pense qu'il faut à un moment rompre tous les discours qui peuvent être jugés, agressifs. Je pense qu'on peut tous vivre ensemble et qu'il y a pire qu'être danseur classique.
Du coup, le choix du film, il a été évident ou il y avait plein d'autres films que vous auriez pu choisir ?
Il a été évident parce qu'on trouvait que c'était... Il y a matière à avoir une discussion aussi avec le public sur cette thématique-là. Et on pouvait avoir les réalisateurs avec nous. Et moi, à la base, plus maintenant parce que je suis un peu plus âgé, mais à la base, moi, j'étais danseur classique pendant de nombreuses années. Mmh. Donc, je peux aussi intervenir en tant que témoin dans cet échange.
Aujourd'hui, la parité, elle serait à combien, à peu près ? C'est une bonne proportion.
Je ne saurais pas vous dire, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que quand on cherche des danseurs hommes, peu importe la stylistique, j'ai envie de dire, que ce soit classique, contemporain, c'est une denrée rare.
Après, c'est vrai que c'est bizarre. En hip-hop, j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'hommes, que ce soit dans même tous les autres genres. Pourquoi est-ce que ce serait seulement celui-là qui serait automatiquement genre ?
Je pense qu'on reste encore avec beaucoup de clichés. Vous voyez, le collant, par exemple. Ne serait-ce que le collant, qui en plus fait apparaître quand même beaucoup de choses, le collant. Je pense que c'est beaucoup ça. Et il y a un côté un petit peu mielleux, un peu, je vais même le dire, un peu cucu des fois dans la danse classique, qui fait que je pense qu'il y a une image un petit peu comme ça. Ouais.
Et pourtant aujourd'hui c'est assez cassé, même pour toi en tant que contemporain de la danse classique, c'est un truc qui ne revient pas du tout dans tes productions, dans tes chorégraphies.
Non, parce que nous, pour le coup, on a souvent plus de garçons que de filles dans certaines chorégraphies. Là, c'est vraiment aléatoire, hein, parce que nous, on ne cherche pas à engager un danseur ou une danseuse. C'est vraiment, on a une ouverture de rôle, venez, puis on voit qui marche pour le rôle. En fait, ce n'est pas du tout genré. Mais moi, c'est pas mes préoccupations actuellement, elles sont beaucoup plus politiques, sociales, environnementales. Ouais.
Eh bien, merci à vous pour cette présentation. On va pouvoir revenir plus en profondeur. On va faire une pause musicale sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM. Que va-t-on écouter, Lison ?
Alors, on va écouter Kalaido. Kalaido.
Et le titre, Hanging Lanterns. Thank you.
Vous venez d'écouter Kaleido de Hanging's Lantern sur Radio Campus Tour. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Alors je rappelle que nous sommes avec Jonathan Breton.
Pour nous présenter le festival Blois Danse. Alors du coup, c'est vrai qu'on a fait très rapidement, enfin rapidement, on a fait le tour de la programmation, mais qu'est-ce que le festival Blois Danse? Qui, quand, comment et pourquoi est-ce qu'il existe?
Alors, on va revenir aux sources. Donc moi, j'habitais très longtemps aux États-Unis. Et la compagnie The Dance Theater, on tourne beaucoup à l'international, dans plein de pays. Et du coup, étant français, j'ai reçu un prix du gouvernement français en 2018. Et j'ai été invité à venir le recevoir au Quai d'Orsay. Et dans ce genre de prix, c'est très pompeux. Donc comme moi, je suis originaire de Blois, on m'a envoyé à Blois pour faire des articles avec le maire. Et donc le maire de Blois m'a dit: quels sont vos projets à l'avenir? Et moi, je voulais revenir en France. Et donc il m'a dit: il faut venir à Blois, il n'y a rien pour la danse, il faut développer ça. Donc voilà comment je suis arrivé à Blois. Et donc du coup, avec ce festival... pour amener un petit peu de danse justement sur le territoire. Donc on a créé la première édition en 2019. Ça a toujours été le même principe, hein. On a 3 spectacles à la Lograin, 2 séances de cinéma au Lobis, les ateliers à la maison de Bégon, le stage, voilà. Et du coup, c'est un format qui plaît bien parce que c'est très varié. Et c'est des spectacles à plateau partagé, c'est-à-dire c'est pas pendant une heure la même compagnie. Par exemple, on va avoir 3 pièces de 25 minutes. Et du coup, les gens, ils aiment bien parce que c'est pas trop long. Et puis, s'il y a une pièce qu'on n'aime pas, on sait que derrière, il y a quelque chose qui peut nous plaire. Voilà.
Quelles émotions, du coup, est-ce que vous cherchez à propager au public avec le festival Blois Danse?
Toute émotion, c'est-à-dire à partir du moment où, par exemple, on va voir quelqu'un qui va sortir, qui va dire « Oh, je déteste, ça m'a chamboulé », ça n'est jamais arrivé, hein. Tous les gens sortaient avec le sourire en disant « On adore », et puis voilà, les yeux pleins de paillettes. Mais il y a toujours une émotion qui passe, même si c'est quelque chose qui les chamboule, c'est que ça a réveillé quelque chose chez eux. Donc voilà, on veut juste pas qu'ils sortent en se disant « Ouais, c'était sympa, là on n'aurait pas réussi notre job ».
Du coup, c'est assez souvent des retours assez positifs, ou est-ce qu'il y a une fois où il y a peut-être un professionnel, comme de par hasard, qui vient de passer, qui dit « ce que vous avez fait les gars, franchement c'était pas fou quoi ».
Pas encore, pour l'instant c'est plutôt hyper chouette. On a même eu une année, une dame qui venait de Paris, on a beaucoup plus de Parisiens qui arrivent, et qui devait aller voir une pièce de Teresa de Kersmaker, ou une grande chorégraphe comme ça. Et ça s'est annulé, donc elle s'est retrouvée à venir à Blois au festival Blois Danse. Et là, je me suis dit, oulala, elle allait voir une grande pointure, et là, elle vient quand même voir des artistes qui sont issus de partout, qui n'ont pas une telle notoriété. Et en fait, elle était venue pour un spectacle, elle est venue au deuxième, elle est venue au troisième, elle a fait tout le festival, et elle a dit que c'était une pépite et qu'elle s'était régalée, qu'elle était même super contente que le spectacle qu'elle devait voir à la base avait été annulé. Donc c'est plutôt cool. Et une autre petite anecdote, l'année dernière, on avait une chorégraphe coréenne qui habite à New York, qui avait entendu parler du festival et qui voulait absolument voir comment c'était. Donc elle est venue de New York. Et sa sœur, qui habitait en Corée, est venue de New York. Et elles ont fait des vacances à Blois et elles ont participé à tout le festival.
Oh là là.
Donc je trouve ça super, super. Non, pour l'instant, c'est que en plein essor. Et on a beaucoup plus, de plus en plus de candidatures, d'ailleurs, tous les ans pour le festival.
D'ailleurs, tu parlais de personnes qui viennent de Paris. Ça s'explique pourquoi?
Je ne sais pas. De Paris, on a beaucoup Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup la Bretagne. Je pense qu'il y a sûrement le bouche-à-oreille. Après... c'est vrai que nous, avec la compagnie, on tourne aussi pas mal. Donc après, il y a peut-être aussi, ils ont peut-être entendu parler de la compagnie. Et vous savez, des fois, quand on aime bien une compagnie, on regarde les dates qu'ils ont. Puis il se trouve qu'il y a le festival Blois Danse. Donc hop, on va aller voir ce qui se passe. Donc je pense que c'est beaucoup du bouche-à-oreille.
Et quels sont vos partenaires que vous suivez sur cette édition?
Donc avant tout, on a les partenaires qui aident à l'organisation. Donc le cinéma Les Lobis, depuis la première année. On a la Maison de Bégon, qui est une maison de quartier qui propose beaucoup d'activités. Et donc qui nous accueille aussi sur ce temps-là. Cette année, on a Château de Blois. Le Château de Blois dans lequel il y aura un spectacle. C'est une première cette année aussi, ça. Et on aura... on a aussi, après, les partenaires institutionnels. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, la ville de Blois, la région, le département, le fonds de développement de la vie associative. Ça, c'est plus l'État. Voilà, donc c'est vraiment les partenaires institutionnels. Et puis après, on a des entreprises aussi locales qui nous aident. Donc on a un imprimeur, on a une personne qui nous fait, vous savez, les bâches pour mettre dans les entrées de ville. Donc du coup, on a pas mal de partenariats comme ça. Le Crédit Agricole, voilà, des entreprises privées, locales, qui soutiennent l'événement.
D'ailleurs, c'est le collectif, c'est un collectif, enfin une compagnie, AZ.
Donc Azad Dance Theater, c'est une compagnie de danse. Et donc elle, enfin, nous, on est à l'initiative de ce festival. Et comme on a vu en fait après la première édition que bah, ça prenait, du coup il y a une association qui s'est créée. Maintenant c'est l'association Blois Danse qui porte le festival Blois Danse en fait.
Et donc c'est possible de soutenir les activités de Blois Danse.
Bah oui, déjà on peut venir durant le festival. Et puis pour ceux qui sont vraiment motivés, qui ont adoré la programmation, on peut faire un don via le site internet. Et vous savez, on a le reçu fiscal qui permet de défiscaliser son don.
Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont proposées par Blois Danse au cours de l'année ?
Alors,
seulement le festival
Ouais, non, c'est vraiment le festival. Il faut savoir que le festival, donc c'est une courte période, hein, c'est que deux semaines, c'est du 2 au 11 juillet par exemple cette année. Mais nous, dès le 15 juillet, on fait les appels à candidature pour l'année suivante. Ouais. Et en fait, c'est un job toute l'année parce qu'il y a on reçoit déjà tellement de candidatures. Même les films pour les films qu'on a au cinéma, on reçoit, mais là je crois que cette année c'était 1350 films, donc du coup c'est beaucoup de travail en amont.
Et c'est des longs métrages, du court métrage?
C'est surtout du court métrage, mais c'est jusqu'à 25 minutes. Donc il suffit d'avoir, je sais pas, 400 courts métrages de 25 minutes et ça prend déjà pas mal de temps.
Et donc on en a parlé assez rapidement de comment est-ce que vous sélectionnez les compagnies et les artistes, mais est-ce que la dimension sociale et environnementale est importante, qu'ils soient eux aussi des défenseurs de ces causes-là?
Bah, il est évident déjà que les pièces qu'ils présentent racontent quelque chose. Donc si on va voir une pièce chorégraphique qui va dans des valeurs, qui défend des valeurs ou qui présente des choses qui ne nous parlent pas, par défaut on va pas du tout les prendre. Ça arrive souvent d'ailleurs hein, qu'on ait des choses qui soient très engagées, voilà, mais pas dans des valeurs qui nous correspondent, donc ça c'est non. Et sinon après c'est vrai que c'est des artistes, bah, souvent on voit hein, c'est quand même des jeunes compagnies qui ont peut-être au maximum 5-8 ans d'existence, donc du coup c'est aussi porter la voix de jeunes générations, et je pense que c'est ces voix-là qui ont le plus de préoccupations par rapport à notre avenir.
C'est important pour vous et même pour la compagnie de propager ces messages-là?
Bah, je pense que c'est essentiel parce qu'on l'entend beaucoup. Mais vous savez, c'est comme dire les écrans pour les enfants, il ne faut pas. On l'entend partout.
Et pourtant, c'est...
Mais partout où on va, on voit des bébés qui ont, ou des enfants qui ont des téléphones dans les mains. Donc je pense qu'il n'y a jamais trop de messages qui passent.
Et du coup, s'il devait y avoir une thématique ou un axe choisi cette année pour le festival?
Je pense que ça serait la défense de nos droits en tant qu'humains. Que ça soit nos droits à avoir un environnement sain, que ça soit nos droits à avoir une culture qui n'est pas comment dire, établie par les institutions. Voilà, c'est vraiment, je suis un humain, j'ai envie d'aller voir un spectacle, j'ai envie d'aller manger dans un parc. J'ai envie, voilà, ben, c'est des choses qu'on peut faire et pour lesquelles ce n'est pas encore cadré.
Et le festival met aussi l'accent sur l'accessibilité à la diversité des styles. Comment est-ce que vous travaillez pour toucher du coup ce public assez varié dont j'ai parlé?
Eh bien, donc nous, quand on fait des appels à candidature, ça s'appelle la candidature, on cherche des compagnies de danse. On ne va pas dire on cherche des compagnies contemporaines. On ne met pas des choses dans des boîtes en fait. Ça, c'est très français en fait de mettre dans des boîtes. Moi, quand je suis arrivé en France, on me disait je suis danseur. Ah bon, tu fais quoi? Quel type de danse? Danse classique, danse contemporaine. Qu'aux États-Unis, on dit Oh, what do you do? Oh, I'm a dancer. Oh, great. Et voilà, c'est tout. Donc, on est danseur et c'est tout. Donc, en France, on met beaucoup dans des boîtes. Bon, on le voit d'ailleurs, quand on remplit des formulaires, des fois, si on n'a pas coché une case, hop, ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup, en fait, cette identité-là en France. Et nous, on essaye vraiment juste d'aller chercher la danse. On n'essaye pas de mettre un label dessus. Donc, ça, c'est très important. Et puis, on cherche après à avoir des pièces chorégraphiques. Qui ont tout type de danseurs. Voilà, il y a une parité, il y a des hommes, il y a des femmes. S'il y a des danseurs en situation de handicap, c'est possible, c'est très bien. Et pour le public, c'est pareil, on a aussi tout un volet social, comme je disais tout à l'heure. Et on a souvent des personnes en situation de handicap physique, mental. Et donc nous, on s'adapte, nous, pour les recevoir au théâtre.
Si aujourd'hui, il doit y avoir des enjeux concernant la création chorégraphique contemporaine, lesquels ce serait?
Je réfléchis auquel je vais mettre en avant. Non, je pense déjà ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus de moyens pour la culture et chorégraphique encore plus, parce que c'est vrai que la danse est comme le parent pauvre du spectacle vivant en France. Hein. On a beaucoup plus de spectacles de musique, de théâtre que de danse. Et ça serait mettre des moyens, parce qu'on voit, il y a même des régions aujourd'hui qui n'ont plus de budget culture. Et comme je disais, c'est vrai que l'État, il soutient aussi une stylistique de danse. Ça, c'est affirmé, une stylistique de danse contemporaine très précise. Et du coup, pour moi, il y a une petite censure un petit peu culturelle, parce que du coup, c'est quand même de l'argent public qui va que à une esthétique. Ça permet pas, en fait, au public d'avoir accès à toute la palette de la danse et des styles chorégraphiques. Et je pense que c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne vont plus au théâtre parce qu'ils disent « moi, je comprends rien à la danse contemporaine », parce qu'en fait, bah, indirectement, on les oblige à aller voir ces spectacles-là.
Ça m'a fait penser à aussi à un autre truc par rapport au ciné, mais franchement un autre débat. S'il devait aussi avoir d'autres enjeux, parce que là c'est peut-être le premier, l'argent c'est toujours une question d'argent, enfin généralement c'est une question d'argent, mais humainement, que ce soit même en matériel aussi, s'il devait y avoir des enjeux concernant la création chorégraphique.
Pour le cinéma vous dites ?
Non, pour la création chorégraphique, s'il doit y avoir d'autres enjeux, en dehors de l'argent.
En dehors de l'argent, bah après les autres enjeux, c'est qu'il faudrait... Je pense que le gros objectif, ça serait vraiment de... Quand je parle de création chorégraphique, je ne parle pas forcément professionnel.
Yes.
C'est vraiment tout public, que les gens reviennent beaucoup plus dans leur corps. Parce qu'on voit aujourd'hui les écrans, encore on revient là-dessus, on est tous dans nos écrans. Je vois même moi, j'étais un grand lecteur dans ma jeunesse, et aujourd'hui, pour ouvrir un livre, c'est très rare, je suis sur mon téléphone. Donc je pense que ça serait vraiment réhabiter son corps, parce que son corps, finalement, c'est la seule possession vraiment qu'on a. Quand on est jeune, ça va, mais quand on vieillit, on se dit « Ah, peut-être que j'aurais dû m'en occuper un petit peu plus avant ». Donc du coup, je pense que c'est vraiment important de reprendre possession en fait, de son corps. Et notre corps, c'est aussi un outil social, c'est aussi comme ça qu'on se présente aux autres, comme ça qu'on interagit. Donc, je pense qu'être en mouvement, c'est très important. Et c'est aussi ça le message de ce festival, par les ateliers, par le stage, de dire il faut se mettre en mouvement. Et puis, finalement, c'est vraiment accessible à tous, parce que tout le monde peut bouger.
Vous parlez de corps, aucun rapport, mais vous ressemblez beaucoup à Shirley Puff. Je ne sais pas si vous le connaissez. À Shirley Puff. Je ne sais pas comment dire son nom, c'est Charlie P-U-T-H, c'est celui qui a fait See You Again, la musique avec Wiz Khalifa.
Je vais te checker, il doit être checker. Magnifique ce monsieur.
Ouais, je confirme. Et on va faire une pause musicale sur Radio Campus Tour, on écoute Quicky Clickly et le titre Get Some Rest et Sleep Well.
What this is saying then is that just as you don't know how you manage to be conscious, how you manage to grow and shape this body of yours, that doesn't mean to say that you're not doing it. Equally, you don't know how the universe shines the stars, constellates the constellation, and galactifies the galaxies. You don't know. But that doesn't mean to say that you aren't doing it in just the same way as you're breathing without knowing how you breathe.
C'était Get Somewhere Sleepwell de Quickly Quickly sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Jonathan Breton.
Et donc Jonathan, parlons un peu de ton parcours. Tu t'en as parlé rapidement, mais quel a été le vôtre ?
Alors, moi j'ai été formé en danse à Blois à la base, parce que je suis issu de Blois. Après, je suis monté au conservatoire d'Angers, puis à l'école supérieure des arts de la scène de Paris. Où là j'ai fait un double cursus de danseur-interprète et de comédie musicale. Et à la suite de ceci, j'étais danseur au Jeune Ballet Balbinien, donc c'est le Jeune Ballet de Bobigny. Et je suis parti donc à New York chez Alvin Ailey, où j'ai fait encore un an de formation. Et puis je suis resté vivre à New York pendant 7 ans, où j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Mmh. Et c'est aussi là que j'ai développé du coup la compagnie Azote Dance Theater, qui est par la suite revenue en France en 2019.
Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, la danse, ta danse du moins ?
La danse, moi j'aime quand on voit pas des danseurs sur scène, mais des humains qui dansent. Il faut vraiment que ça soit authentique, vous voyez ce que je veux dire ? J'aime quand il y a une vraie émotion qui se partage, quand il y a quelque chose qui parle, quand il y a quelque chose qui touche. Les pièces chorégraphiques que je développe, c'est souvent quand même sur des sujets de société. Et la compagnie, nous, on fait aussi pas mal d'actions tout au long de l'année socio-éducatives. On va dans les écoles, on a aussi nos locaux qui sont à côté de Blois, et où toute l'année, quand les danseurs ils sont pas en tournée, eh bien, on anime des ateliers accessibles à tous aussi. Donc il y a vraiment un volet de partage.
D'ailleurs, je l'ai pas mis parce que c'est un peu tôt, je vois. Un peu tôt, c'est plutôt la première date, c'est le premier en réalité. Il y a une action auprès des scolaires. C'est ce qu'ils vont pouvoir y apprendre, les scolaires.
Alors en fait, on invite le public scolaire à venir au théâtre, à la Lograin, pour voir un filage d'une des pièces chorégraphiques. Donc là, cette année, ça va être notre nouvelle création à nous, Rewrite, de la compagnie Azote Dance Theater. Et c'est une pièce de 45 minutes. Et à la fin de la présentation, il y a un échange avec les élèves. C'est des élèves du cycle élémentaire, donc d'école primaire, de Blois et autour de Blois. Et ça, c'est important pour moi parce qu'il y a des enfants, ils n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Il y a des enfants, ils découvrent pour la première fois le théâtre et souvent, ils ont les yeux, ils sont ébahis. Surtout que là, c'est une grande salle. Et il y a des échanges qui sont très intéressants. Vous voyez, par exemple, quand il y a des duos entre hommes et femmes, eh bien, je me souviens d'une question d'un enfant qui a dit à la danseuse, il a posé une question, elle lui a dit « Eh bien, toi, ça ne te dérange pas quand il y a un monsieur qui te touche ?» Il y a des questions comme ça, on se dit c'est des CP, des CE1 qui posent ce genre de questions. Vraiment, ça m'interpelle et je me dis « Ouais, c'est important de montrer qu'on peut se toucher avec respect. » La danseuse a d'ailleurs répondu « Bah, si je l'autorise à me toucher, c'est OK qu'il me touche. Voilà. » Et voilà qu'ils aient accès à la culture aussi, parce qu'il y a des enfants de certains quartiers qui... À Blois, on a la Loire, et il y a des enfants, ils n'ont jamais vu la Loire. Quand ils vont voir la Loire, ils croient que c'est l'océan. Donc du coup, je trouve que c'est important aussi d'ouvrir les horizons, c'est le cas de le dire, pour tout le monde. Ouais.
Et aujourd'hui, ta compagnie Azote, est-ce que tu considères qu'elle a évolué correctement, je pense, dans la danse, dans la professionnalisation de la danse, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas réellement bougé? C'est le même état d'esprit, on va dire, que vous voulez propager à travers votre danse?
Oui, c'est toujours le même état d'esprit. Bon, après, forcément, avec les années qui passent, la stylistique, elle évolue aussi avec l'âge du chorégraphe. Mais sinon, nous, tout ce qu'on a fait, on est content. Quand on a des spectacles, on a des super retours. Vous voyez, là, on a été invité à aller encore en Thaïlande, au Japon et en Corée. Donc, du coup, non, nous, on est très heureux.
Alors, ça veut dire que j'ai dit, vous voguez entre les États-Unis et la France, mais au final, vous avez voyagé partout.
En Finlande, en Pologne, au Danemark, au Guatemala, en Suisse, en Allemagne, un petit peu partout. Ouais.
Tu disais que c'était un milieu assez petit, tout le monde se connaît. Qu'est-ce que ça fait d'être aussi reconnu partout dans le monde? C'est une vraie question. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité de parler avec des personnes qui ont cette opportunité de voyager à travers le monde et de pouvoir propager sa passion au travers de la danse ou de sa musique. Qu'est-ce que ça fait?
Moi, je suis juste content, en fait, que... Et ça qui est intéressant, c'est que peu importe le pays ou la culture où on va, c'est que, comme je disais, la danse, c'est comme un langage sans mots. Et en fait, quand on échange avec les gens après les spectacles, on se rend compte qu'ils perçoivent les mêmes messages, peu importe la culture et, et le pays. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et moi, la meilleure reconnaissance, c'est de se dire que les spectacles plaisent, en fait. Ça, c'est jackpot.
Est-ce qu'il y a un type de public qui perçoit mieux les représentations?
Pas spécialement, par contre, il y a un public qui est plus difficile que les autres, c'est les enfants. Les enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre. Et donc, du coup, ça peut être super bien, comme ça peut être dangereux. Mais vous voyez, là, j'étais en tournée à côté, pas loin de Lyon, à Saint-Julien-Molin-Molette, il y a quelques semaines. Et j'ai trouvé ça super. J'ai fini, c'était un solo, j'ai fini de danser le solo. Et il y a un enfant, je ne sais plus, peut-être 6-7 ans, qui crie dans le public « Bravo !» Et là, je me suis dit « C'est bon ». J'ai gagné, j'ai réussi ce que j'étais venu faire.
Après, justement, est-ce que ce serait pas bien d'avoir des enfants sans filtre? Comme ça, ils te donnent réellement la vie, les choses que les parents ne diraient pas.
Tout à fait, ouais, ça c'est super.
Ouais. Comme tu parlais de cette fameuse anecdote où l'enfant posait la question à la danseuse, est-ce que c'est une dimension qui revient très souvent dans les remarques des enfants?
Ils sont souvent interpellés par les portées. Parce que c'est vrai que dans la rue, on voit pas... quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre au-dessus de sa tête. ils sont facilement impressionnés par ça. Mais c'est vrai que c'est souvent le toucher, le contact. Et ce qui les impressionne souvent, c'est aussi la capacité à parler sans mots. Ça, ils nous le disent souvent. Mais comment vous arrivez à vous comprendre sans parler? Et comment eux, en fait, ils ont réussi à comprendre le message qu'on essaie de passer? Des fois, il y a des enfants qui disent « Moi, j'ai compris ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ?» Donc ça fait toujours un peu rire et je pense que l'important, c'est pas ce que le chorégraphe veut dire. Béjar, il disait ça et ça, je trouve ça super. Il disait une chorégraphie n'a pas d'histoire. C'est le public qui se raconte une histoire en voyant une chorégraphie. Et ça, je trouve c'est super.
Maintenant, on va parler vite fait, rapidement, des choix des lieux. Est-ce que ça a été une chose qui a été réfléchie par rapport aux éditions précédentes? Parce que vous avez maintenant le château de Blois, il y a le hall... J'ai oublié le nom.
La Hologram.
Ouais. Est-ce que ça a été du coup réfléchi par rapport aux éditions précédentes ou c'est par rapport à une thématique précise dont tu parlais?
Alors, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a très peu de subventions par rapport en France. Et donc, du coup, les acteurs culturels, ils sont obligés de travailler ensemble. En arrivant en France, moi j'étais dans cette optique-là, et j'ai rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué en France, mais pour moi c'était vraiment important en fait que ce festival, on parlait de censure culturelle tout à l'heure, c'était vraiment essentiel que ce festival, ça soit pas juste moi qui dise, qui impose ma vision de la danse. Donc c'est pour ça que je voulais absolument qu'il y ait plusieurs lieux partenaires, qui aient aussi eux leur mot à dire sur la programmation. Et d'ailleurs, des fois, on programme des spectacles ou des films qui, moi, ne me plaisent pas du tout. Mais la majorité, ça leur plaît. Donc du coup, let's go. Ça me semble très important. Et l'idée, c'était aussi de faire vivre la ville. Donc c'était pas d'avoir un spectacle dans un lieu où c'est vraiment d'essayer d'essaimer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a ajouté le Château de Blois cette année parce que c'est quand même un élément central de la ville, majeur. Et du coup, on trouvait ça très intéressant aussi d'amener de l'art vivant dans un lieu historique où il y a des œuvres qui sont là depuis des centaines d'années. Du coup, c'est vraiment mixer les époques et c'est donner une autre dimension au lieu. Et c'est aussi faire venir au château des gens qui n'iraient pas autrement au château. Par exemple, il y a des gens, des fois, mais comme pour les spectacles, ils disent « Bah non, moi, je suis plus d'une classe populaire, aller dans un château, je me sens pas y aller. » On entend ça, vraiment, on a entendu ça. Et du coup, on se dit « Bah voilà, ils vont rentrer dans le château pour venir voir le spectacle, peut-être ça va leur donner envie d'aller le visiter parce que ça y est, ils ont mis un pas dedans. »
Aujourd'hui, quels sont les plus grands défis logistiques ou artistiques rencontrés pour cette édition 2025?
Les grands défis, financiers, hein, forcément, c'est toujours un petit peu ça. Financiers, il faut savoir que nous, on a aussi un très gros engagement vers les artistes. Donc il faut savoir qu'on est deux à travailler la production, hein, c'est notre métier. Et donc c'est la sixième année, pendant cinq ans, on n'a pas été rémunéré. On a travaillé bénévolement pour avoir la trésorerie nécessaire pour payer les artistes. Donc ça, pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc je pense que le côté financier, c'est vraiment un gros frein. Et l'autre frein, c'est vrai que de faire venir les publics maintenant, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile. Parce qu'on nous dit que la crise financière elle est derrière, mais on se rend bien compte quand on fait nos courses qu'elle est toujours là et que c'est pas forcément de mieux en mieux. Et donc je pense que les gens ils sont beaucoup plus à compter, et on a même des fois des gens qui sont venus à une année, deux années, trois années de suite, qui nous envoient un email, qui disent écoutez, cette année on préfère partir en vacances que de faire des spectacles. Donc moi je leur dis let's go, faut vivre, hein, donc voilà, c'est ça, c'est comment on peut fédérer les publics, comment on peut leur permettre aussi financièrement d'accéder. Parce que nous, on est une réalité, hein, faut payer la salle, faut payer les techniciens, les artistes, etc. Donc, voyez, par exemple, nous, on fait un tarif différent en ligne et sur place. Si les gens l'achètent en ligne, c'est moins cher. On n'a pas augmenté les prix depuis la première édition. Alors qu'il y a des festivals, souvent, les prix sont plus chers qu'à l'année, vous voyez. Donc, nous, non, vraiment, on est même en dessous des prix qui sont pratiqués par cette salle à l'année. Donc, on essaye vraiment d'être au ras des pâquerettes dans nos budgets pour permettre au plus grand nombre de venir. Ouais.
Tu as parlé de beaucoup d'anecdotes, de souvenirs importants, mais si il devrait y en avoir un, celui qui te fait peut-être le plus rire, celui qui t'a donné le plus d'émotions.
Alors, un qui m'a beaucoup marqué, j'ai créé une pièce en 2023 qui s'appelle Love. Parce que moi, je voulais être parent. Mais j'avais beaucoup de difficultés pour le devenir. Et du coup, en tant qu'artiste, on exprime aussi ses émotions, tout ça. Et cette pièce, en fait, elle présente, c'est un duo. Et donc, ça présentait en fait toute cette difficulté que beaucoup de plus en plus de gens, d'ailleurs, ont pour avoir des enfants aujourd'hui. Hein. Y a même un livre qui a été publié il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Demain, tous infertiles ». Parce que vous savez, avec tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, ça nous touche, les perturbateurs endocriniens. Et donc, du coup, cette pièce, on l'a présentée au festival. Et après la première représentation au festival, il y a une dame, donc moi je ne savais pas parce que moi j'étais en coulisses, mais il y a une dame qui est sortie, qui est allée voir les gens de la billetterie en pleurs et qui a dit « Comment je peux faire un don? Il faut que je fasse un don. » Et elle a fait un chèque de 100 euros parce que la pièce l'a touchée. Et j'ai trouvé ça super.
Magnifique, ouais. Ouais. Eh bien moi j'aurais plus dit que ce n'est pas une question de perturbateur endocrinaire, c'est plus le problème de trouver l'amour. C'est le plus genre.
Moi je l'ai trouvé depuis déjà plus d'une décennie, donc du
coup... Oh, le français. T'as trouvé Sandro?
Oui.
T'as trouvé Lison?
Oui.
Ah, vous êtes... Non, mais c'est bon.
Non, mais...
Je suis tout seul.
Je rigole, je suis tout seul. Hein.
Ah, c'est bon, on est ensemble. Ouais. Ensemble.
Je précise quand même que depuis, j'ai eu mon petit bébé et qu'elle est trop mignonne.
Félicitations. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du festival dans les prochaines années?
Dans les prochaines années, comment on voit l'évolution du festival?
Est-ce que ça s'appellera toujours Blois Danse ?
Ça s'appellera toujours Blois Danse. On veut garder un côté international, mais peut-être moins international que ça ne l'est. C'est-à-dire, dans les films, c'est facile de rester international. Dans les compagnies qui viennent, vous imaginez bien que tout ce qui est transport, c'est déplacement, hébergement, c'est beaucoup d'argent. Depuis le Covid, en plus, on se rend compte aussi, il y a plein de lieux culturels qui disent ça, qu'il y a des artistes qui sont beaucoup plus exigeants aussi. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, je passe un message à tous ceux qui nous entendent dans la région. On aimerait créer un collectif en fait, de compagnies de la région, et que ça soit, qu'il y ait peut-être une ou deux compagnies internationales, mais que sinon, ça soit des compagnies de la région qui présentent leur travail à l'occasion du festival.
D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Je parlais d'émergence tout à l'heure. C'est important pour le festival de booster ces nouvelles compagnies.
Je trouve ça hyper important parce que il y a un chorégraphe. Vous savez, quand on est jeune, on a faim. Ouais. On veut faire plein de trucs. Vraiment, on a envie, quoi. Et je trouve que ça, c'est important, surtout que les préoccupations, elles sont pas vécues pareilles suivant les générations, et que un chorégraphe aujourd'hui de 20 ans. Et il a vécu sa fin d'adolescence dans le Covid. Il est en pleine crise financière. Il y a la guerre à gauche, à droite dans le monde. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut dire. Et je pense que ces artistes qui vont aussi peut-être amener des changements dans la société par leur travail. Et je trouve ça vraiment essentiel parce qu'aussi, quand on est un artiste établi depuis longtemps, qu'on a l'habitude d'être subventionné, etc. Moi, je connais un chorégraphe qui est très connu, qui est là depuis les années 80 en France.
Ah oui.
Et qui touche... beaucoup d'argent public, on en parlait tout à l'heure, il a 5-6 phrases chorégraphiques, la phrase A, la phrase B, la phrase C, et suivant les spectacles, il change l'ordre des phrases. Mais en fait, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'engagement, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'a pas aussi faim, je pense, qu'un chorégraphe en début de carrière, donc je pense que c'est important aussi de donner des moyens et de donner des lieux de diffusion à des artistes qui ont des choses à dire.
Eh bien, merci à vous d'avoir été présent avec nous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et où est-ce qu'on peut retrouver la programmation ?
Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Blois Danse sur Facebook et sur Instagram, BLOISDANSE. Et sur le site internet, on a toute la programmation, on a la billetterie, c'est www.bloisdanse.com.
Eh bien, merci à toi, Jonathan Breton, de nous avoir présenté le festival Blois Danse qui se tiendra du 2 au 11 juillet 2025 à Blois.
Merci à tous.
Et donc le podcast de cette émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique avec Ras et Chevy et le titre Everything Alive in a Van. Et oui, vous allez entendre qu'il y a toute une autoroute qui se passe tout autour et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Make some noise for Chevy! Yeah! This is a song we wrote like 2 years ago called Every Day.
I'm excited to sing it.
Let's go! Num, 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 whatever, dum, dum. A whole new season with a whole different meaning. New energies and people, memories and reasons. Been running here while open time. Got so much work, but you've been catching up on mine. I wonder when you might open your mouth and say you like me. Bite me, boy, to hang it out. Ask me out, wanting the feelings that we never expected. When I'm moving, the kind that could put me in affections. Could it be a blessing? When the road seems hazy, I'm holding on, I'm holding on. Cause I know God's got me. So I'll sing this song like when you wanna call my phone, I'll be waiting all night long. And I'll sing this song like you're in my arms. So real, is it what did I feel? Supposed to go out. I'm sitting wondering the possibilities, the meant to be, the chemistry and attraction. Hard time for relaxing, I'm overthinking and analyzing. Let me crack and scream, let me breathe. Cause deep inside the outcome is awesome, it's free. No stressing, no headaches, no more questions. I believe there's a purpose in this patience, so I'm trusting that every time. That the road seems hazy, I'm holding on, I'm holding on, yeah. Cause I know God's got me, so I'll sing this song like. When you wanna call my phone, I'll be waiting all night long. And I'll
thank you for watching the first ever Bay Area Rising live car session. I am Rice, Chevy, Trevor, Addison, Ben, Trevor, Gino, and you can hear it first. One, two, one, two, three, four.
Love you on the daily. All my thoughts go crazy. Think about you every day.
Radio Campus Tours.